Bonsoir tout le monde, je m'appelle Claudette, je suis une alcoolique.
Bonsoir Claudette.
J'aimerais souhaiter la bienvenue aux réunions marathon du Congrès international 2005 des alcooliques anonymes. Nous allons débuter cette réunion ouverte par un moment de silence, suivi de la prière de la sérénité. Si vous voulez, on va avoir ce moment maintenant. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Les alcooliques anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Je vais lire la déclaration d'unicité de but. Ceci est une réunion ouverte des alcooliques anonymes. Nous sommes heureux que vous soyez ici, surtout les nouveaux. Conformément à notre unicité de but et à notre troisième tradition qui dit « Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des AA », nous demandons à tous les participants de limiter leur discussion à leurs problèmes d'alcool. Cette réunion sera enregistrée en totalité. On peut se procurer la cassette et celle d'autres réunions en remplaçant le formulaire qui se trouve dans votre enveloppe de congrès ou en vous adressant à la table d'enregistrement dans la section inscription du Centre des congrès. Les enregistrements sont faits dans le dessein de transmettre le message. Il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissez pas notre tradition d'anonymat personnel en public. La politique de nos relations publiques est basée sur l'attrait plutôt que sur la réclame. Nous devons toujours garder l'anonymat personnel dans nos rapports avec la presse, la radio, la télévision et le cinéma. Ainsi, nous demandons très respectueusement qu'aucun conférencier AA, en fait, qu'aucun membre des AA, ne soit identifié par son nom au complet dans les rapports de nos réunions, par les médias imprimés et électroniques. L'assurance de l'anonymat est essentielle dans notre effort pour aider d'autres buveurs problèmes qui voudraient partager avec nous notre programme de rétablissement. Notre tradition d'anonymat nous rappelle que les principes des AA doivent être placés au-dessus des personnalités. À cette réunion, le premier conférencier parlera pendant 15 minutes, la première conférencière, la deuxième conférencière parlera aussi pendant 15 minutes. Par la suite, je vous demanderai aux membres de l'auditoire de partager. Et on vous demande de limiter votre partage à 3 minutes afin qu'autant de personnes que possible puissent participer avec nous. Je vous rappelle gentiment d'arrêter. Je vous le rappellerai si vous dépassez les 3 minutes. Et j'ai demandé à Claude de lire les 12 étapes.
Salut mes frères et sœurs AA, mon nom c'est Claude et je suis un alcoolique. Et je suis responsable, c'est notre thème. Les 12 étapes des alcooliques anonymes. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. 2, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. 3, nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu tels que nous le concevions. 4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. 5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. 6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. 7. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. 8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. 9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en se faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. 10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. 11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Et 12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Merci.
Merci, Claude. Et j'ai demandé à Claire pour lire les 12 traditions.
On doit baisser le micro, c'est une petite qui parle. Bonjour tout le monde, mon nom est Claire et je suis alcoolique. Alors, on parle des 12 traditions. La première, c'est notre bien-être commun devait...
Attends, je vais l'apporter, parce que là, je ne le vois plus. Je m'excuse.
Non, c'est pas grave. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. Leur établissement personnel dépend de l'unité des arts. Deux, dans la poursuite de notre objectif commun, il n'existe qu'une seule autorité ultime, un Dieu d'amour, tel qu'il peut se manifester dans notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance, ils ne gouvernent pas. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour les membres de AA, c'était 3. 4. Chaque groupe devait être autonome, sauf sur les points qui touchent d'autres groupes ou l'ensemble du mouvement. 5. Chaque groupe n'a qu'un objectif primordial, transmettre son message à l'alcoolique qui souffre encore. 6. Un groupe ne devra jamais endosser ou financer d'autres organismes, qu'ils soient apparentés ou étrangers au AA, ni leur prêter le nom des alcooliques anonymes, de peur que les soucis d'argent, de propriété ou de prestige nous distrait de notre objectif premier. Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs besoins et refuser les contributions de l'extérieur. 8. Les mouvements des alcooliques anonymes devraient toujours demeurer non professionnels, mais nos centres de services peuvent engager des employés qualifiés. 9. Comme mouvement, les alcooliques anonymes ne devraient jamais avoir de structure formelle, mais nous pouvons constituer des conseils ou des comités de services directement responsables envers ceux qu'ils servent. Numéro 10. Le mouvement des alcooliques anonymes n'exprime aucune opinion sur des sujets étrangers. Le nom des AA ne devrait donc jamais être mêlé à des controverses publiques. 11. La politique de nos relations publiques est basée sur l'attrait plutôt que sur la réclame. Nous devrons toujours garder l'anonymat personnel dans la presse, écrite et parlée, de même qu'au cinéma. L'anonymat est la base spirituelle de toutes les traditions et nous rappelle sans cesse de placer les principes au-dessus des personnalités. Merci.
Merci, Claire. Merci. Le thème de nos rencontres aujourd'hui, de notre rencontre, c'est l'humilité. Et j'ai demandé à deux de mes vieilles amies, c'est longtemps qu'on se connaît dans l'alcoolique anonyme, nous sommes toutes les trois de Toronto ici. Alors, notre première invitée, c'est Sylvie, s'il vous plaît, si vous voulez l'accueillir.
Bonsoir mes amis, mon nom est Sylvie Grenrousse et je suis alcoolique. Premièrement, je te remercie Claudette de m'avoir invitée à parler. Et puis, je veux remercier deux personnes que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Puis aujourd'hui, je peux dire que je les aime vraiment parce que les alcooliques anonymes m'ont appris qu'est-ce que ça veut dire d'aimer. C'est une chose que j'apprends de plus en plus tous les jours. Alors, je veux remercier mon mari, Peter, et mon parrain extraordinaire, Frankie. Je vais le dire en anglais parce que les deux sont là pour le soutien, mais ils ne parlent pas en français. I want to thank you both, Peter and Frankie. I love you both, and I thank you very much for being there to support me. That's it for English. Claudette m'a demandé de parler, et puis après ça, j'ai appris que je parlais sur l'humilité. Et puis je me suis dit, oh mon Dieu, parler, c'est déjà effrayant. Sur l'humilité, en plus, de quoi je pourrais bien parler. Mais c'est l'humilité, c'est un sentiment qui m'intéresse depuis, on pourrait pas dire depuis le début de ma sobriété, parce que je savais pas ce que ça voulait dire la sobriété quand j'ai arrêté de boire. Et puis, j'ai pas commencé à vraiment travailler les étapes avant au moins un an dans le programme. J'avais beaucoup de résistance, de défiance, d'arrogance. L'humilité, c'était pas quelque chose que je cherchais. Mais sur mon médaillon de 5 ans, c'est ça qui est inscrit, l'humilité. Et puis au mois de mai, cette année, j'ai célébré 10 ans de sobriété. Alors, il y a de la synchronicité là-dedans. J'ai écrit un petit quelque chose. Puis après ça, je vais laisser mon papier, puis je vais continuer sans papier. Mais l'humilité, c'est quelque chose de difficile à mettre en mots. C'est quelque chose de difficile à saisir. Alors, il a fallu que je fasse des recherches dans ma tête, dans mon cœur. Puis, ce que j'ai écrit, c'est l'humilité. Ça, c'est avec beaucoup d'aide de mon parrain, Frank. Parce que quand j'ai dit à Frank que j'allais parler, il m'a dit, « Ben, quand tu auras pensé à ce que tu diras, tu m'appelleras. » Fait qu'il m'a aidé. L'humilité, c'est tout d'abord un cheminement qui s'effectue plus souvent qu'autrement à notre insu. C'est un processus qui commence par l'acceptation de soi et qui conduit à l'amour de soi pour aboutir finalement à l'oubli de soi, qui mène vers l'acceptation et l'amour véritable des autres et de son environnement. D'après le petit Robert, l'humilité a sa source dans la conscience d'une indignité, donc en faisant l'expérience d'humiliation, parfois aussi dans la conscience éblouie d'une sainteté, donc d'un réveil spirituel, de la conscience d'une puissance supérieure et conséquemment d'une nouvelle perspective de soi, de sa vie et des autres. Alors, moi, je suis devenue sobre il y a 10 ans. J'ai joint les alcooliques anonymes il y a 10 ans, mais j'ai joint les alcooliques anonymes avec beaucoup de résistance. Je suis née dans une famille où mes deux parents étaient alcooliques. J'ai vécu la violence, l'enfer que ça veut dire de vivre avec l'alcool depuis que je suis née. Puis je m'étais juré deux choses quand j'étais petite, que je ne boirais jamais, puis que je ne serais jamais abusée par un homme comme ma mère était abusée par mon père. Et puis 37 ans plus tard, dans un mariage, mon mari m'abusait pas. Il était très gentil envers moi, il était très intelligent, puis aussi il était très manipulateur. Mais il m'a dit à un moment donné, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais alcoolique 3 ans avant de finalement arrêter de boire. Mais j'en parlais aux gens, j'enseignais à l'Université York à ce moment-là, puis je disais, je pense que je suis un alcoolique. Puis il disait, voyons donc, t'es pas alcoolique, Sylvie, tu bois du vin en mangeant, t'es francophone, ça va ensemble. Puis je disais, oui, c'est vrai, je me fais des idées, là. J'avais toujours envie de me suicider, j'avais jamais l'impression que la vie marchait nulle part, j'étais jamais contente. Fait que finalement, 3 ans plus tard, quand mon foie a commencé à me faire la vie dure, je suis allée voir mon médecin m'a référé à un naturopathe. Le naturopathe m'a dit, faut que tu arrêtes de boire, sinon tu vas mourir. J'ai dit, je vais faire tout ce que vous voulez, mais je peux pas arrêter de boire, parce que c'est ça qui me garde en vie. Et puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon mari, je peux pas manger de fromage, je peux pas manger de choses qui ont de la levure dedans. Puis il m'a dit, l'alcool, j'ai dit, ça c'est pas un problème. Mais il était pas fou, puis quelques semaines plus tard, il a dit, si t'arrêtes pas de boire, moi je veux pas te regarder te détruire. J'en ai assez avec ça. Fait que la prière qui est venue dans ma tête, est venue en anglais. Mes sentiments aussi sont venus en anglais. Fait que c'est dur de partager mes sentiments en français parce que ma recouvrance s'est faite en anglais. Mais la prière qui est venue dans ma tête, c'est Dieu aide-moi. Puis mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec mon mariage? Parce que je savais que ça marchait pas. Mais ça, c'est la prière la plus sincère que j'ai faite dans ma vie. Et puis, j'ai décidé que pour m'occuper, je devrais m'occuper physiquement puis intellectuellement. Fait que j'ai pris un cours de méditation, puis je me suis acheté des patins à roues alignées. Puis le cours de méditation, la première, j'ai ma date de sobriété le 9 mai, et puis le 10 mai, j'ai commencé le cours. Et puis la femme qui animait ça était une psychologue, puis elle a dit en s'introduisant qu'elle était une alcoolique. Puis je me suis dit, mon Dieu, elle a beaucoup de courage de dire ça en face de personnes, en face d'autres personnes, parce que moi j'avais beaucoup de honte d'être une alcoolique. J'avais l'impression que j'avais ruiné ma vie parce que j'étais devenue alcoolique. Puis aussi, je vous passe beaucoup là parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai été moi-même abusée par un homme avant ça. Fait que, elle m'a dit, quand elle a dit ça, je suis allée la voir à la pause et puis je lui ai dit, ça fait une journée que je suis sobre. Elle a dit, vas-tu aller chez les AA? J'ai dit, oh non, je vais pas là. Elle a dit, si tu y vas pas, tes chances de rester sobre sont presque nulles. Avec beaucoup de résistance, je suis allée 3 semaines plus tard. Et puis au début, j'ai fait tout ce que le monde, j'ai fait tout ce que beaucoup de monde font. J'ai comparé. J'avais beaucoup d'arrogance parce que j'étais intellectuelle et puis je me disais, ils répètent la même chose tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre? Les autres, j'ai lu le livre dans une semaine. Puis je me disais, c'est pas sorcier cette affaire-là, je comprends. Mais j'avais rien digéré encore. Et puis ce qui est arrivé, c'est que je suis restée dans les AA parce que les personnes chez AA m'ont souhaité la bienvenue, puis c'est quelque chose à faire. Puis j'avais peur de boire encore. À chaque jour que j'avais, que j'étais sobre, je me disais, mon Dieu, une journée de plus. Puis j'ai commencé à développer des amitiés chez AA, puis je suis restée. Puis mon premier médaillon d'un an, je revenais pas. Tout le monde me donnait des cadeaux, tout le monde me disait, félicitations, tu changes beaucoup, Sylvie, t'es une partie importante de notre groupe. Puis je me disais, tout ce que je voulais, c'est d'arrêter de boire. J'étais vraiment étonnée par l'encouragement que je recevais des autres et puis l'amour que je recevais des autres. Je comprenais pas ça. Puis mes sentiments commençaient à faire surface. Je me suis rendu compte que j'étais enragée. J'étais pas en colère, moi j'étais enragée. J'avais peur, je me sentais souvent en détresse, je me sentais souvent isolée, je savais pas quoi faire avec mes sentiments. Fait que les 12 étapes m'ont aidé beaucoup avec ça, vous autres vous m'avez aidé beaucoup avec ça. Et puis ce que je peux dire, c'est que c'est difficile de faire le travail des 12 étapes. C'est pas, ils disent que c'est pas difficile, mais moi je suis en désaccord. C'est difficile de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est difficile de faire ce qui nous est demandé chez les AA, parce que ça va à l'encontre de tout ce que je connais. Mais avec ça, j'ose pas dire que j'ai acquis de l'humilité, mais je peux dire que oui, parce que les buts d'humilité, finalement, c'est la joie, la compassion, l'amour des autres, la conscience des autres. Et puis aussi, l'humilité, c'est une reconnaissance que je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux pour moi. Je suis venue chez les AA à contre-cœur, je n'avais pas le désir de rester, mais vous m'avez sauvé la vie. C'est en vous écoutant que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire de vivre. Les 12 étapes m'ont donné la clé de la vie. La clé de la vie, c'est de m'oublier puis de me tourner vers les autres. Des fois, je suis en pleine chicane avec mon mari. Je l'adore, mais des fois, on est en chicane. Le téléphone sonne, c'est une de mes filleules qui me téléphone, elle a besoin d'aide. Je finis le téléphone, je raccroche, je me souvenais même pas pourquoi qu'on était fâchés l'un envers l'autre. On continue à vivre. J'ai toujours pensé qu'est-ce que je pourrais apporter aux autres, moi. C'est pas moi qui détermine ça, c'est les autres qui le déterminent. C'est les autres qui viennent me dire, Sylvie, pourrais-tu m'aider? Je suis toujours là pour aider quelqu'un parce que vous avez toujours été là pour m'aider. L'humilité, c'est de réaliser que je suis pas en contrôle de la vie. Moi qui étais, tu sais, en anglais, ils disent control freak. Moi qui voulais toujours avoir le contrôle de tout, j'avais même pas réalisé un jour que quand je prenais l'avion, j'étais pas en contrôle pantoute. C'est le pilote qui est en contrôle, puis les hôtesses de l'air. S'il se passe quelque chose, c'est pas moi, venez pas me voir, je sais pas ce qui se passe. Mais en même temps, je suis là, je contrôle ma vie. Fait que l'humilité, souvent, c'est de reconnaître que, de téléphoner à mon parrain. J'ai des idées qui me passent par la tête, des idées d'alcoolique. J'ai des idées qui me passent par la tête, puis je me dis, bon, je pense que je pourrais faire ça. Je téléphone à mon parrain. Mon parrain, il me dit, ouais, penses-tu vraiment que c'est ça que tu devrais faire, Sylvie? Puis quand il me dit pas quoi faire, mais il me fait réfléchir, souvent en me disant quasiment rien. Mais passer mes idées par quelqu'un d'autre qui a plus que 25 ans de sobriété, ça m'aide. Puis je me suis rendu compte aussi qu'avec toutes mes idées intellectuelles brillantes, je savais même pas comment me nourrir. Quand je suis arrivée dans le programme, des fois je me nourrissais pas pendant 5-6 heures. J'avais des maux de tête, puis je me disais, mon Dieu, j'ai mal à la tête. Puis quelqu'un me disait, as-tu mangé aujourd'hui? Oh non, j'ai pas mangé. Je savais même pas quand aller me coucher, je savais pas comment me nourrir. Tout ce que j'avais, c'est de me détruire avec l'alcool. Puis je me considérais une femme intelligente. Fait que ça, c'est beaucoup d'humilité. Fait que pour moi, l'humilité, puis le premier geste d'humilité que j'ai posé sans le savoir, parce qu'ils disent souvent à son insu, c'est de venir chez les alcooliques anonymes. Puis aujourd'hui, c'est ça qui me remplit le plus de joie. Parce que c'est pas de mon propre dessein que j'ai fait ça. Dieu avait un but pour moi. Je peux pas le questionner, le but de Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer de le comprendre puis de faire ce qu'il me demande. Fait que pour moi, l'humilité, c'est la conscience d'une puissance supérieure. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup.
Merci, Sylvie. Notre deuxième conférencière, c'est Lucie de Toronto aussi.
Salut tout le monde, je m'appelle Lucie, je suis une alcoolique. Je suis membre d'un groupe qui s'appelle Armo Heights. Si vous venez à Toronto, vous chercherez ça dans le petit bottin, vous viendrez nous voir, ça va nous faire plaisir. L'humilité, c'est la base spirituelle de ce programme. Pour moi, l'humilité, ça veut dire toutes sortes de petites choses au quotidien. Puis j'ai appris, entre autres, dans A, tu sais, il y a toutes sortes de monde dans A. Il y a des vedettes, il y a des écrivains, il y a toutes sortes de monde. Au début, j'étais contente, je disais à tout le monde, hey, j'ai rencontré, ben viens, viens. Puis quelqu'un m'avait dit, pas supposé d'être anonyme, ça? Ouais, mais, tu sais. Et puis, ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que moi, j'avais tellement peu de valeur intérieure, j'avais tellement peu de satisfaction de qui j'étais, que j'avais toujours besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur. Et l'humilité, pour moi, aujourd'hui, c'est juste reconnaître que moi, je suis un enfant de Dieu. C'est juste reconnaître que j'ai une vie qui m'est prêtée. C'est juste de reconnaître à tous les jours que c'est un cadeau. Ce matin, je me suis levée, puis j'ai dit merci d'être en vie. Pour moi, ça, c'est ça, être humble. Avant, j'avais toujours l'impression que j'étais capable de décider ou de contrôler, comme tu disais. Puis, il n'y a rien que je contrôle. Je contrôle même pas mon respire. Tu sais? Je peux bien respirer 2-3 minutes, là, mais si j'arrête de respirer volontairement, je vais mourir. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vie qui m'habite, c'est pas moi qui me l'a donnée. C'est un cadeau. Ben, tous les jours, je réussis. Puis aujourd'hui, j'ai rencontré un membre qui, dans ses derniers bas-fonds, a tombé dans le coma pendant quelques heures et il me disait, j'ai la joie au cœur de vivre. J'avais pas ça avant, moi. Pendant des années, moi, là, ce tic-tic-là, là, ça me rend folle. T'as pensé, la dernière fois, j'ai écouté chez ma chum, elle a une grosse horloge avec une batterie, là, tu sais, j'ai mis dans le salon le matin, elle dit, qu'est-ce que, j'ai dit, moi, les tic-tic-tic-tic, là, je dors pas avec ça. Fait que, je pourrais pas avec un chum qui a une batterie au cœur, ça serait un problème. Je serais obligée d'être couchée dans le salon. La vie, pour moi, aujourd'hui, c'est tellement simple. C'est la grande simplicité. Puis, je vais vous dire, il n'y a rien de bien, bien compliqué, hein. J'ai juste à faire ce qui est devant moi. Pour moi, ça aussi, c'est d'être humble. Niveau professionnel, j'ai toujours eu des idées de grandeur. Aujourd'hui, je fais quelque chose de très simple, mais je suis heureuse. J'ai pas besoin de me compliquer la vie. Puis moi, je me complique la vie, plus je suis utile aux autres. Ça, c'est aussi le paradoxe, hein? Plus tu donnes, plus tu reçois. L'humilité, pour moi, c'est aussi savoir passer. Si un membre m'appelle, puis il est 3 heures du matin, puis je suis pas mal endormie, puis je suis pas mal choquée d'être réveillée. Mais humblement, je vais demander à Dieu de me donner le courage pour être à l'écoute de cette personne-là. Pour moi, l'humilité aujourd'hui, ça veut dire que le plus souvent possible, d'avoir le réflexe de demander à Dieu de l'aide. L'autre jour, je parlais avec un aide qui était en souffrance, puis je vais vous dire franchement, tu sais, quand t'es « powerless », comment on dit ça en français, impuissante, là, tu sais, j'avais aucune idée de comment aider cette personne-là. Je suis assez contente d'avoir eu le réflexe de demander à Dieu de l'aide, parce que soudainement, il y a des paroles qui sont venues. Et ça, là, c'est des joies intérieures, c'est tellement miraculeux quand ça se passe, là, que ça me surprend, tu sais. De la colère, je vis souvent de la colère, mais je l'exprime plus, la colère. Je l'exprime plus parce qu'avant de l'exprimer, je prie. Un exemple, je fais partie d'une chorale, puis on se préparait pour un spectacle, puis là, ça a l'air qu'on chantait pas assez bien, en tout cas, il a été chercher une grande diva, là, tu sais, là, qui aurait chanté toutes les tunes. Là, je suis venue verte, là, ça montait, là, tu sais, là, je m'envoie dire, puis si tu penses un sans-dessin, puis pas mal épais, puis nous autres, on y sait tous les soirs, petit. Ça se termine, il me dit, peux-tu te donner un livre? Je dis, oui, certainement, merci. Là, je suis prête. Tic, là, ça monte, là, puis là, il va-tu savoir, puis si tu es imbécile. Puis là, j'ai encore demandé à Dieu de l'aide, parce que je sais que quand ça sort comme du venin, je vais payer pour après. Parce qu'à chaque fois que je garoche mon venin, il y a quelque chose qui se passe. J'ai demandé à Dieu de l'aide, mais j'ai dit, il faut que je dise quelque chose. Puis tout ce qui est sorti, là, c'est, je pense que la diva a un petit peu perturbé la soirée. Je me tapais, je revenais pas, tu me dis, il y a quelque chose, mais là, la prière avait changé, ça n'a pas sorti comme je voulais, mais ça a sorti merveilleusement bien. Bon, on ne l'a jamais revu, la diva. Tu sais? Mais probablement que j'avais on aurait revu la diva. L'humilité, c'est toutes sortes de petits gestes, savoir dire merci. Je me souviens au début, quand j'allais dans des meetings, puis quelqu'un m'offrait une chaise ou quelqu'un m'offrait un verre d'eau, je disais pas merci, c'était pas un réflexe pour moi de dire merci, parce que c'était comme dû. Puis là, excusez-moi, parce que je pense que je viens de voir quelqu'un de Côte-des-Neiges, sais-tu de Côte-des-Neiges? Aïe, salut! Je vis à Toronto depuis 9 ans, mais j'ai commencé à Montréal. Puis aujourd'hui, ça a été assez touchant de voir des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Puis ça me fait drôle. Ouais, dire merci. Merci à Dieu d'être en vie ce matin, oui, puis merci pour mon abstinence. Mais de dire merci à quelqu'un qui est gentil pour moi, de dire merci à ma boss quand elle fait quelque chose pour... C'est toutes des petites choses que je ne faisais jamais parce que ça m'était dû. J'avais cette attitude que tout était dû. Je suis une femme assez heureuse aujourd'hui, assez comblée, avec une vie très, très simple. Puis, je vais vous dire une chose, je ne la changerai pas, ma vie. J'ai déjà une vie un peu plus élaborée, mais j'étais tellement vide à l'intérieur de moi. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, j'ai un beau jardin intérieur. Dans mon jardin, il y a des belles fleurs, il y a des oiseaux, il y a toutes sortes de belles choses. Il y a aussi des êtres humains, il y a des visages. Il y a plein, plein de belles choses en moi maintenant. Je laisse ça croître. Puis l'humilité, c'est aussi de reconnaître que je ne sais pas tout. C'est aussi reconnaître que des fois, je ne peux pas aider ou je ne peux pas faire certaines choses. Et ça veut dire reconnaître mes limites. Ça a pris quelques années à reconnaître des limites. J'aimais pas beaucoup ça, avoir des limites. Tu sais, et une des limites, c'est que moi, je ne peux pas aller à une conférence comme celle-ci 4 jours. Je peux pas aller ce soir à la soirée. Parce que si je fais ça, je vais être épuisée, puis je vais avoir 3-4 jours à récupérer. Alors, j'ai une limite. Puis aujourd'hui, ben, je l'accepte. Puis je vais m'en aller tantôt à mon meeting d'attache, puis je vais leur raconter toutes les belles choses qui me sont arrivées aujourd'hui. Puis c'est correct. Avant, j'aurais jamais accepté ça. Là, avant, là, j'aurais peut-être pris des vitamines C. En vrai, amène de la B12, de la B6, de la BE. En vrai, amène-en. Parce que je veux être là. Je veux rien manquer. Tu sais, les patterns d'avant, là, tu sais, tu vas à 3 parties dans la même soirée parce que tu veux être partout, mais tu t'ennuies à mort parce que t'as rien fait nulle part, là, tu sais. Ou bien, quand t'es parti, c'est là que le fun a commencé. Fait que là, ils t'ont dit, t'es parti trop vite. Là, donc, à soir, ça soit le party, que ça revire à l'envers, ça me dérange pas. Moi, j'ai été nourrie jusqu'à maintenant par des êtres fantastiques. J'ai pas besoin de plus. Si ça avait été que j'avais besoin de plus, je suis sûre que Dieu aurait mis de l'énergie en moi, ou en tout cas, il aurait posé quelque chose, il servait quelque chose. C'est pas arrivé. C'est correct. C'est correct. Fait que l'humilité, ça veut dire toutes sortes de choses, puis ça veut rien dire en même temps. Ça veut juste dire essayer d'être un être meilleur. Ça veut juste dire, pour moi, d'être plus attentive aux autres. Ça veut juste dire de reconnaître que la vie est absolument extraordinaire, puis que tous mes malaises intérieurs, j'ai pas besoin de... Comment gérer ça, non? J'ai pas besoin de ruminer tous mes malaises tout le temps, tu sais. Moi, je une marraine, quand ça va pas bien, je l'appelle, j'y garoche mes bibites. Après ça, on rit. Après ça, je m'en vais être à l'extérieur, aider quelqu'un ou faire quelque chose. C'est que, je sais pas si mon temps est écoulé, mais moi, j'ai la gorge sèche. Fait que, je suis extrêmement contente. Ah oui, puis en passant, je sais pas si vous êtes tous de l'extérieur de la province, mais on a un beau meeting francophone le vendredi soir. Ça fait que si ça vous tente de venir faire un petit week-end à Toronto, ben, vous pouvez commencer avec un meeting le vendredi soir. C'est un beau petit meeting. C'est quoi déjà, non? Pourquoi pas, oui, c'est ça le nom. Non, mais c'est pas ça que je voulais savoir. Je veux dire, une fois par mois, on a un conférencier, puis le reste, c'est les étapes. Puis, quand est-ce que c'est le conférencier? Je pense que c'est le dernier vendredi du mois. Hey, je suis pas pire, hein? L'adresse, envoyez donc. Avez-vous un papier et un crayon? De toute façon, vous téléphonerez au 234 et vont tout dire ça si vous l'oubliez. Et puis, ben merci d'être venu, merci d'être là. Et puis, c'est ensemble qu'on va s'en sortir parce que seule, moi quand je suis seule trop longtemps et que je fais pas de meeting parce que je travaille trop, je vous dis une affaire, la boîte à poux à revire de tout. Ça fait que je sais que j'ai besoin de vous autres, j'ai besoin de faire du meeting parce que j'ai besoin d'entendre ma maladie. J'ai besoin d'entendre ce que ça fait de ne pas faire du meeting. J'ai besoin d'entendre aussi que quand je fais du meeting, que j'aide un autre être humain, que je vais mieux. Merci.
Merci, Lucie. On se rend compte, les gens qui sont dans le programme depuis plusieurs années, à quel point on change. Ce sont deux femmes que je suis depuis plusieurs années. Moi-même aussi, je change beaucoup, je m'en rends compte. Alors, s'il y en a d'entre vous, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à venir nous dire quelques mots pendant 3 minutes sur le sujet de l'humilité? Le micro est ouvert.
Bonsoir, mon nom est Gaétan, je suis un alcoolique. Pour moi, l'humilité, quand j'ai compris l'importance de l'humilité, c'est quand j'ai été capable de la mettre au-dessus de mon orgueil. J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à accepter. J'ai commencé à l'offrir. J'ai commencé une foule de choses, à comprendre une foule de choses. C'est pas facile pour un grand orgueilleux d'en venir avec la humilité, de plier le dos et laisser. Et il y a bien des choses dans la vie qui t'emmènent à l'humilité. Hein? La maladie peut t'emmener avec une humilité énorme parce que t'es pris avec ça, tu sais. Et moi, j'ai compris que en essayant d'être humble, c'est une chose qui est pas facile, mais ça se fait que le mouvement des alcooliques anonymes. Je voudrais remercier les deux madames qui ont partagé, ils sont très réceptifs parce qu'ils ont une belle personnalité. Ça dégage l'humilité. Merci de l'avoir partagé. Et bon fin de congrès.
Marie-Renée, alcoolique. Ça, j'ai jamais autant à parler. Je me lève quasiment à tous les meetings. Tu sais. Ça doit être parce que ça me ressemble pas mal. L'humilité, quand j'arrivais dans le collège anonyme, j'avais demandé à Dieu de me donner de l'humilité parce que j'avais l'orgueil grosse comme votre stade olympique ici. Là. Puis ça me détruisait parce que c'est juste la merde. Hein. L'orgueil, pour moi en tout cas, là, tu sais, ça me détruisait. Tu sais. Puis, je peux dire, là, j'ai 11 ans dans le mouvement, puis j'ai encore de la misère à me mettre à genoux. T'sais.
Je fais ça juste quand je partage. Je crois ça juste dans... quand je partage. Là, avant, là, je m'en imaginais dans la toilette. Je demandais Dieu de m'aider, tu sais. Mais autrement, je sais qu'aussi, il y a 3 ans, j'étais sur une rechute, puis j'étais en train de mourir. Fait que quand j'étais en train de mourir, c'est plus facile de se mettre à genoux. Je l'ai fait, tu sais. J'aide moins, tu sais. J'étais en train de mourir. Puis aujourd'hui, je crois que j'en ai un petit peu plus parce que je laisse vraiment à Dieu mener ma vie, tu sais. J'ai redonné ça dans les mains si j'avais d'affaires à venir au congrès de Toronto. Je dis, ta volonté soit faite et non la mienne. Pour l'instant, je travaillais pas, puis je me suis dit, j'ai dit à lui, j'ai dit, si tu veux j'aller à Toronto, ben trouve-moi des petits contrats de peinture, de lavage, de murs, n'importe quoi, tu sais. Ben, depuis ce temps-là, j'aurais pu travailler. C'est fait que c'est ça de l'humilité. Puis il m'a fait avoir assez cet argent-là pour venir au congrès. Fait que... Mais j'aime entendre parler de l'humilité parce que j'en ai besoin, tu sais. Ça me fait vibrer, puis ça me met plein d'émotions, tu sais. Fait que c'est ça, je suis contente d'être ici, puis je vais en écouter d'autres sur l'humilité. Merci, les deux madames, là-bas.
La clé alcoolique. Moi aussi, il me semble toujours que j'ai parlé beaucoup, là, mais je veux vous dire merci. Moi aussi, je trouve que vous êtes des belles femmes. Puis moi, j'ai besoin. J'ai besoin encore de voir ça, que c'est ça que ça nous amène à... Et c'est là que moi, j'ai pas encore tellement d'heures dans A, mais je peux voir aussi. Vous m'avez fait voir que je dis plus souvent merci, puis j'ai un orgueil encore très grand. Puis juste, j'ai aimé l'idée que ça, c'est simple comme ça, l'humilité de penser, d'avoir le réflexe de demander à Dieu de nous aider. Je trouve ça tellement... Il me semble que c'est pas forçant, ça. Tu sais? Puis c'est sûr que moi, j'ai toujours été comme dans le paraître, puis comme aussi de reconnaître ses limites. Juste, tu sais, quand je suis fatiguée, là, j'ai le droit d'être... des fois, je me dis, je manque peut-être quelque chose, mais peut-être que je manque rien si je m'écoute. Hein, je suis mieux d'aller lire un bon livre toute seule. Puis j'aime ça, entendre ça, parce que ça dans le fond, c'est la thérapie de la parole. Puis votre parole, elle vient nous réconforter, venir nous dire que... Ben, on a raison, nous aussi, de penser ça, qu'on, c'est dans le miroir qu'on se reconnaît, hein. Puis je vous remercie aussi, je sais pas qui a organisé tout ce congrès, mais j'aime ça, ces sujets-là, là. J'ai dit tout à l'heure, l'intimité, là, l'humilité. Moi, c'est tout, je suis arrivée tard à, mais on n'est jamais trop tard parce que je vais peut-être avoir, une bien plus belle, ben, vieillesse, hein, je suis pas une vieillesse, mais en tout cas, une plus belle troisième âge, ou je sais pas quel âge, le quatrième âge. Ouais, juste à vivre ça plus en étant, plutôt qu'en paraissant, là, tu sais, là, parce que là, dans le monde qu'on vit, là, je te dis, il faudrait se refaire faire tout le corps, puis encore, on aura de la misère à vivre dans cette société-là, tu sais, si on n'avait pas l'être qu'on développe, qu'on est. Fait que pour ça, je vous remercie. Puis merci à tous pour ce beau congrès.
Je m'appelle Maurice, je suis un alcoolique. Moi, l'humilité pour moi, là, j'avais bien de la misère avec ça. Moi, je commence avec le temps, je pense, j'espère, à m'améliorer dans le mouvement. Puis, il y a des fois, j'ai peur que ça paraisse. T'sais. J'ai peur de passer pour réfléchir. Il y a un moment donné, j'en ai parlé de d'autres avec ça. Ils ont dit, écoute, Maurice, t'as le droit d'être beau d'en haut. Là, t'as le droit d'avancer, t'as le droit de grandir. T'sais. Mais donne le crédit à la bonne place. J'ai compris c'était quoi l'humilité, tu sais. Je me suis même trouvé un exemple pour moi, c'était quoi l'humilité. L'étape 4, 5, 6, 7. 4, tu te regardes dans le miroir, tu vois que t'as des grands cheveux. 5, t'en parles à d'autres autour de toi et tu penses que j'ai des grands cheveux. si tu décides de faire quelque chose, tu vas t'asseoir dans le chef du barbier. Tu demandes au barbier de couper les cheveux, sept, tu lui donnes tes cheveux, tu sors de là, puis t'es beau. N'oublie pas de donner le crédit au barbier. C'est ça, 4, 5, 6, 7 pour moi. Je demande au bon Dieu de m'enlever mes déficiences, c'est lui qui fait l'ouvrage, puis je deviens beau. Puis je suis fier de moi. Merci.
C'est votre dernière chance de parler au marathon. Après celui-ci, c'est terminé. Alors, si vous avez quelque chose à partager avec nous, vous avez 3 minutes.
Nancy, alcoolique. Je pense que la première marque d'humilité, c'est de venir en avant puis s'identifier. C'en est une très grande. C'est la première. La plus importante. C'est sûr qu'après ça, mais c'est toutes des petites subtilités que la vie nous emporte à travailler sur nous, que des fois, c'est pas toujours nécessairement apparent. Mais ce que j'ai compris, c'est que si on ne le voit pas, la vie se charge de nous les faire voir. Pas nécessairement comme on le veut, mais il y a une chose que je sais, c'est que quand ça se présente, il faut se mettre à genoux, puis il faut lui demander absolument de nous aider à enlever de l'orgueil et amener de l'humilité, c'est pas nécessairement plaisant, mais ça fait partie du cheminement. Puis, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais merci de m'aider puis de me faire voir les manières d'acquérir l'humilité, les manières de vivre des bons 24 heures. Merci.
Oui, bonjour les amis, je m'appelle Edith, je suis alcoolique, ça va pas? Je viens de France, de la région de Provence, et je remercie du sujet, je suis ravie d'être là dans ce beau congrès, c'est un beau cadeau pour moi, de venir au Canada aussi déjà, hein, et de terminer un voyage très très agréable et qui m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de paix en moi. Et de terminer par ce congrès. L'humilité, pour moi, c'était un mot que je ne connaissais pas. Moi, j'ai dit, je ne suis pas orgueilleuse, donc je n'ai pas besoin d'humilité quand je suis arrivée. Je me rappelle, même ma marraine m'a dit, on en reparlera. Par contre, j'étais pleine de culpabilité. Et je ne savais pas que c'était l'opposé de l'orgueil, mais que c'était un orgueil inversé. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me défaire de cette culpabilité qui était en moi et qui est un poison autant que l'alcool. J'ai dû beaucoup travailler sur ce que j'étais. J'étais dans le déni de ma maladie, le déni de moi-même. Ça a été très dur. Et dans la 7e étape, dans l'alcool, j'ai enfoui mes émotions, j'ai enfoui mes sentiments, j'existais plus. Hein, je n'existais plus quand je suis arrivée en AA et j'ai eu cette chance de connaître Alcoolique Anonyme. Et j'ai appris beaucoup de choses. Hein, j'ai appris beaucoup de choses avec le cœur. Et je crois que ça s'oublie pas. Et ça demande aussi, ça m'a demandé certainement de l'humilité à mon insu. La 7e étape, le mot humilité est marqué 24 fois. Hein. Alors c'est pas peu dire, c'est qu'il fallait que je mette de l'humilité pour arriver à me connaître et à savoir qui j'étais. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je suis à un tournant. C'est écrit dans notre livre. Hein. C'est une belle page pour moi. Je demande l'humilité. Elle m'est donnée. Elle m'est envoyée. L'humilité au moment où j'en ai besoin. C'est ça qui est formidable. Ce renversement. Hein. Au lieu de me l'imposer, de la faire rentrer en moi avec force et avec grosse demande et pas contente d'être obligée encore de mettre de l'humilité en moi. Aujourd'hui, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Parce que ça me permet d'évoluer beaucoup, d'avancer hein, et de ne pas rester en arrière avec toute ma culpabilité. On dit aussi dans notre littérature que c'est un juste milieu entre l'orgueil et l'humilité. Et tous ces mots, moi, m'apportent beaucoup. J'adore d'avoir partagé avec vous dans cette salle magnifique, c'est superbe. Hein. Et ça permet un petit peu, moi ça me permet un petit peu plus de parler avec intimité, de mon intimité à moi, hein, de mon moi profond. Et ça, ça me demande de l'humilité aussi. Et c'est vrai de laisser venir les choses, de laisser venir les événements dans ma vie. Je ne savais pas, je forçais toujours, je voulais que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, non, je ne fais plus ça. Hein. Je dis quand ça ne s'emboîte pas, comme les petites poupées russes, là, c'est pas bon pour moi. Je laisse de côté. Hein. J'insiste pas. Et ça me permet de faire autre chose déjà et de laisser de la place dans ma tête pour faire autre chose, hein, de quitter ce côté obsessionnel. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est, pour moi, c'est énorme d'avoir parlé ici et dans ce cadre magnifique. Merci.
Bonjour tout le monde, mon nom c'est Renaud, je suis un alcoolique. Dans la dernière année et demie que je viens de vivre, j'ai vécu de l'humilité d'une drôle de façon, par des vieux membres. Quand je parle de ça, je viens tout le temps émotionné, parce que c'est des membres qui sont décédés. Puis là, un entre autres, par chez nous, que c'était le pilier des membres, là, en tout cas moi je viens de la Gaspésie, hein, au Québec, puis c'était un des piliers Pat. Puis j'ai été son... C'était une obligation qu'on a été le rencontrer une dernière fois. Puis, l'humilité de cet homme-là, là, c'est qu'on est arrivé au service, au salon. Puis, l'église était trois quarts pleine de membres. Puis, j'entendais des gens demander à sa famille proche, « C'est qui ces gens-là? Ton père était dans quelle organisation? » Tu sais? Puis, c'était tous des proches de lui, là. Puis personne ne le savait que c'était un membre des Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes, là, on le savait tous, mais cet homme-là avait vécu une humilité qu'il avait gardé ça pour lui. Il n'a pas gardé ça pour lui parce qu'il n'a fait profiter une partie de la province de Québec. Puis deux personnes de même. Ça fait drôle, t'sais, j'ai vécu ça, j'ai dit ça, là, t'sais, c'est vraiment de l'anonymat. Puis dans l'anonymat, ben, il y a beaucoup d'humilité, je pense. Je pense que c'est bien important. Merci, bonne fin de l'été.
Merci, j'ai entendu des belles choses. Ce que je viens d'entendre, ça m'a ramené à une femme qui m'en a énormément montré d'humilité. Elle a été ma marraine pendant plus de 7 ans. Et il y a 2 mois, elle est décédée du cancer. Et elle vivait tellement l'humilité. Et quand on est allé à son enterrement, c'était une assez grande église et l'église était pleine à craquer de membres des Alcooliques Anonymes à qui elle avait tant donné. Alors, je sais qu'elle est certainement encore tout près de moi. Je la sens m'aider beaucoup de ce temps-là. Elle m'envoie des gens aussi, des femmes qui ont besoin d'aide et ça, je fais comme vous. Parfois, je sais vraiment pas quoi dire, je sais vraiment pas quoi faire, je n'ai qu'à me mettre à genoux et à demander à Dieu de m'aider, de parler, parce que des problèmes qui me dépassent, là, souvent. Et en me servant aussi de ma propre expérience, je vois que les personnes, ça allume des lumières, elles comprennent des choses. Alors, c'est en s'effaçant soi-même qu'on arrive à laisser passer Dieu, puis on est là pour ça, on est là pour s'entraider. Alors ça a été une soirée vraiment magnifique. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Je pense qu'on peut encore les applaudir bien fort. Merci à tous ceux et celles qui ont partagé aussi avec nous. Je vais aussi remercier Claude qui a lu les étapes, Claire qui a lu les traditions. Et pour ceux et celles qui le veulent, on va terminer cette réunion par la déclaration de responsabilité. Je suis responsable si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit là. Et de cela, je suis responsable.
Merci à tous, à toutes. C'était le dernier marathon francophone. Il y a plein d'autres réunions encore. Il y a une danse ce soir. Le congrès se termine demain. Je vous souhaite une très belle fin de congrès. Et j'aimerais beaucoup remercier Milton et Claire qui se sont impliqués très, très fort pour réunir toutes ces personnes qui sont venues ici parler pour vous. Merci Milton. Merci Claire.